Alors on poursuit, en nous rendant maintenant chez un autre de nos voisins européens, l'Espagne, une destination très fréquente aussi pour les Françaises en désir d'enfant. Écoutez par exemple Sandrine, la quarantaine, voilà quelle était sa situation.
Moi, on m'a dit, vous êtes préménopausée. En France, vu votre âge, c'est plus possible. Il faut vous terner vers l'Espagne, la Belgique. On ne peut pas vous l'écrire parce que on n'a pas le droit. C'est la législation française. Donc, voilà, quoi, vous vous débrouillez. Pour moi, je lui ai dit, ma vie était terminée, quoi.
Voilà, et Sandrine est venue à Barcelone. Bonjour Marie de Neuville.
Bonjour Sophie.
Vous êtes journaliste installée à Barcelone, justement, et c'est vous qui avez recueilli le témoignage de Sandrine. Alors, à cause de sa ménopause précoce, elle avait besoin d'un transfert d'ovocytes d'une autre femme pour avoir un enfant. Or, en France, les dons d'ovocytes sont rares, environ 200 par an seulement. L'attente est donc très longue, et puis passé 40 ans en plus, on l'a entendu, elle le dit, on a finalement peu de chances d'être sur la liste. Alors, en quoi la situation est-elle différente en Espagne, Marie ?
Alors ici, les délais sont beaucoup plus courts. On attend rarement plus de 6 mois pour bénéficier d'un don d'ovocyte. Et comme vous le disiez, en France, les FIV après 40 ans sont rares. Ici, les médecins sont beaucoup moins regardants sur l'âge de leurs patientes. Et autre différence avec la France, les transferts d'ovocytes sont autorisés dans les cliniques privées. Elles sont donc très nombreuses, en particulier à Barcelone, qui est une ville facilement accessible pour des Français.
Et puis, tout ça est quand même rendu possible, surtout, par un nombre de dons d'ovocytes beaucoup plus élevé.
Alors effectivement, il y a beaucoup de communication à ce sujet et les cliniques font de la pub dans les facs, à la radio et dans les journaux. Et surtout, ici, les donneuses sont indemnisées. Elles reçoivent 900 euros par don d'ovocytes et sont donc beaucoup plus nombreuses. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Victoria Walker, qui est médecin à l'Instituto Marques à Barcelone. Voilà ce qu'elle me disait sur le recrutement de ces donneuses.
Les donneuses, la plupart sont étudiantes ici à Barcelone. Elles sont volontaires, elles viennent, on fait de la publicité dans les universités, et elles viennent, on cherche des femmes qui sont saines, qui n'ont pas d'histoire des maladies dans la famille. Et une fois qu'elles ont été acceptées dans le programme, on leur donne une date pour commencer et on cherche aussi quelqu'un pour recevoir ses ovocytes et on cherche quelqu'un qui va paraître à la réceptrice. Donc quelqu'un avec les yeux verts et les cheveux blonds, on va chercher une donneuse qui lui ressemble au niveau des couleurs. On va pas trouver quelqu'un qui vous ressemble, mais c'est simplement une question de couleur.
Et est-ce qu'elles sont nombreuses ?
Oui, nous avons beaucoup de donneuses, nous avons entre 10 et 15 donneuses chaque semaine.
Voilà, alors des donneuses sollicitées par le corps médical, on le comprend, et donc indemnisées. Marie, quand ces couples receveurs sont loin, en France par exemple, est-ce que c'est pas trop un parcours du combattant ?
Si, ça l'est effectivement, et surtout ces couples en mal de bébé sont très nombreux en France. Et ceux que j'ai rencontrés ici à Barcelone sont déjà passés par de lourds traitements et des fécondations in vitro qui n'ont pas marché. Du coup, on assiste à une véritable organisation parallèle, d'abord sur les forums internet où l'on échange les meilleures adresses et les prix de chaque clinique. Et il y a aussi des associations comme Enfants Cadeaux, par exemple, qui négocient directement les prix avec les cliniques espagnoles. Il faut compter entre 5 000 et 10 000 euros pour un don d'ovocytes.
Oui, c'est donc pas négligeable, hein. Et puis, vous l'avez dit, les donneuses d'ovocytes espagnoles elles-mêmes sont indemnisées, environ 900 euros, ce qui n'est pas le cas en France. Et du coup, on se pose forcément la question, est-ce que le risque, ce n'est pas que ça devienne en quelque sorte un business ?
Évidemment, et j'ai d'ailleurs demandé à Victoria Walker si ces ovocytes ne devenaient pas de véritables produits.
On l'écoute.
Dans un sens, oui, mais je ne crois pas que les femmes soient inconscientes de ce qui est en train de se passer. Qu'une femme qu'elle ne connaît pas est prête à soumettre un traitement qui est assez désagréable avec les injections, etc., est prête à passer par une anesthésie générale et donner ses ovocytes. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de changer la vie de quelqu'un d'autre. Et je pense que ce qu'on offre aux donneuses, ce n'est pas suffisamment pour expliquer leur désir de donner. C'est pas comme, par exemple, aux États-Unis, une donneuse, suivant son éducation, si elle a des enfants, etc., elle peut demander peut-être entre 10 et 20 000 dollars. C'est énorme. Et si on passe à la première visite, 1h30, voire 2h, voire 3h avec un couple, on ressent la peine qu'ils ont de ne pas avoir réussi à créer des enfants naturellement. Et ils ont tant d'espoir. Ici, ça marche, c'est vraiment formidable. Et puis, ils nous envoient des photos, ils nous envoient les photos des échographies, ils nous envoient les photos à la fin, ils sont là après l'accouchement avec le bébé dans les bras. Et pour nous, ben pour moi, c'est ça qui motive. C'est très beau comme traitement.
Alors justement, j'ai rappelé Sandrine, qu'on écoutait oui. tout à l'heure, et son transfert a eu lieu il y a quelques semaines à Barcelone, et ça y est, elle est enceinte et tout se passe bien.
Ben merci beaucoup Marie Deneville pour ces bonnes nouvelles. Je rappelle que vous êtes à Barcelone, au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Joël Bélèche-Allard, je donne votre nom complet. Vous avez un commentaire. Est-ce que la question de la rémunération ou de l'indemnisation, hein, plutôt du don d'ovocytes, qu'est-ce que vous en pensez en tant que médecin ?
Je pense qu'avoir recours au don d'ovocytes en France, ça relève toujours du parcours du combattant. Ouais. Que le dogme français, c'est anonyme et gratuit. Mmh. Que l'anonymat commence à être mis en cause de par le monde, parce que les enfants ont droit à leurs origines, et que gratuit, c'est souvent un peu artificiel. Mmh. Je ne suis pas choquée qu'on indemnise des jeunes donneuses. C'est lourd de donner ces ovocytes. Mmh. Je suis d'accord que le seuil avec le marché est très difficile à ne pas franchir. Mmh. Je voudrais juste apporter une toute petite correction. Oui. Par rapport à ce qui a été dit, les médecins français ne sont pas réticents à faire des FIV à 40 ans. Les FIV, on les fait à 40 ans. Le problème du don d'ovocytes, c'est qu'on sait qu'il y a un délai d'attente moyenne de 2 ans en France. Ouais. Ce ne serait pas correct de prendre des patientes de 40 ans en charge. On préfère leur dire la vérité. Et c'est pourquoi elles vont beaucoup en Espagne quand elles le peuvent.
On a bien compris qu'il y a un problème de pénurie, entre guillemets. Hein. Alors, on reste en Espagne, d'où notre correspondant Mathieu de Taillac a recueilli un autre témoignage de médecin. Il s'agit cette fois, pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, d'adopter un embryon. Docteur Bélèche-Allard, dites-moi si je me trompe, hein, il s'agit d'embryons conçus in vitro, mais qui ensuite n'ont pas été implantés dans le ventre de la mère d'origine de la conception, parce qu'en surnombre en quelque sorte, c'est ça ?
C'est pas tout à fait comme ça. Nous faisons l'accueil d'embryons en France aussi. Oui. Certains patients ont la chance d'avoir avec nous 2 ou 3 ans grossesse. Il leur reste des embryons congelés qui n'ont pas été transférés et ils ont la noblesse d'accepter de les donner à un autre couple infertile.
Eh bien, je vous propose donc d'écouter le docteur Marisa López Teijón. Elle est responsable du programme d'adoption d'embryons de l'Institut Marquès.
En novembre 2003, la législation sur les embryons a été modifiée. La loi dit qu'on peut faire exactement ce que l'on veut des embryons. Alors, on a envoyé toute l'information aux couples qui avaient des embryons congelés pour leur demander ce qu'ils voulaient en faire. 61% des couples n'a pas répondu, parce qu'ils ont été troublés émotionnellement. Il faut se mettre à leur place. Ce sont des gens qui ont des enfants, donc qui savent que ces embryons sont les frères de leurs enfants et que ce sont de réelles vies en puissance. Alors ils se demandent, on les utilise pour nous ? Non, on a déjà assez d'enfants. On les donne à d'autres couples ? Non, je ne peux pas faire ça à mon enfant. Peut-être qu'après il rencontrera par hasard un frère biologique. On les détruit ? Non, les détruire, ce serait vraiment trop dur. La recherche, non plus. La première chose qu'ils imaginent, c'est qu'on va faire grandir les embryons, qu'on va leur couper la tête. Ils pensent qu'on va jouer à Frankenstein. Donc finalement, ils ne répondent pas. Ou alors ils nous appellent et ils nous disent « Décidez notre place, on a fait confiance à votre institut, faites ce que vous voulez, si c'est possible, on ne veut rien savoir. » Un an après, en décembre 2004, on avait 1700 embryons à notre disposition.
Selon quels critères attribue-t-on un embryon à un couple ?
Les seuls critères pour le choix des embryons, c'est la race. On n'implante pas un embryon d'une race différente à celle des parents. Et puis on choisit un pays ou une région différente entre parents biologiques et parents adoptifs pour éviter qu'un enfant rencontre un frère biologique. Par contre, on ne prend pas en compte le sexe. Le prix correspond à un travail bien fait dans une bonne clinique. Ça coûte 2000 euros, c'est beaucoup pour le couple, mais nous, on n'en tire aucun avantage économique.
Voilà, alors docteur Joël Bélèche-Allard, je sais que ça existe aussi en France, vous nous le disiez tout à l'heure, hein, oui. Sauf que il y a très peu de ces embryons donnés à des couples stériles. Cette fois, c'est parce que la loi, oui, est plus contraignante en France.
La loi est tout à fait différente, mais je pense qu'elle est beaucoup plus rassurante pour les patientes. Pour une fois, je défends la loi française. À l'issue de la loi de bioéthique de 2004, les parents qui ont des embryons congelés ont 4 possibilités. Reprendre les embryons pour eux-mêmes, s'ils souhaitent une nouvelle grossesse, demander la destruction, les donner à la recherche ou les donner à un autre couple infertile. Mais seuls les patients qui veulent les donner vont les donner. On les contacte, ils nous répondent ceci, ils doivent ensuite avoir un document envoyé au tribunal de grande instance après un délai de réflexion de 3 mois après l'entretien avec nous. Donc c'est un choix total des patients.
Et dans la plupart des cas, que font les patients
Alors, le problème, c'est que c'est difficile d'arriver à joindre systématiquement les patients qui ont eu des envoyants congelés. Ensuite, qu'ils ont un peu peur quand on leur parle du tribunal de grande instance, quand on leur propose...
Oui, parce que c'est toute une démarche.
Toute la démarche est un peu lourde. Elle est complètement gratuite en France. Une enquête des biologistes en novembre 2006 a montré qu'il y avait déjà eu à peu 112 en novembre, donc il n'y a pas si longtemps, 112 transferts et 31 grossesses. À Sèvres, il y a 8 centres qui en font en France. Nous, on a déjà fait 14 transferts d'embryons et 3 patientes ont accouché, une autre est en cours. C'est superbe, c'est une adoption prénatale, c'est totalement gratuit, mais il n'y a pas beaucoup d'embryons à donner pour le moment. Nous sommes très loin de la situation qui a été décrite.